Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
En cette rentrée, alors que plane, ou presque rentrée, alors que plane sur notre tête la menace nucléaire nord-coréenne, semblant toujours un peu plus tendre les relations à l'est de la planète pour nous, la France, elle semble hésiter entre l'espoir d'un redressement inespéré, fait de réformes pragmatiques plus que bienvenues, et l'angoisse ou la colère d'un gouvernement qui serait celui des riches et s'apprête toujours un peu plus la fracture sociale. Et l'Europe ? L'Europe n'a Dieu que pour la Catalogne, trouvant presque unanimement qu'il y a la matière à un risque de délitement d'un grand rêve, angoissée qu'elle est déjà devant la montée des souverainismes et des nationalismes. Bref, de quoi débattre. Cette émission Vivante Église, ce matin, donc, le grand débat de Vivante Église. J'hésite toujours entre le grand débat et les grandes gueules. Les grandes gueules, on n'a toujours pas statué, parce qu'on a peur de se faire poursuivre, tout simplement, si on utilise un mot déjà utilisé. Autour du plateau, en ce vendredi, Daniel Cabanis, chroniqueuse géopolitique sur Radio Présence et ancien professeur d'histoire du droit à l'Université Toulouse-Capitole. Bonjour.
Bonjour.
Alain Cérizola, diacre délégué diocésain à la solidarité pour le diocèse de Toulouse. Bonjour Alain.
Bonjour.
Et Bernard Ribal, président des Semaines sociales de Toulouse, conseiller spécial du président de la CFTC. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, il n'y a pas de réac en plateau. Je me suis dit, oh là. Normalement, j'essaie d'équilibrer, il y a toujours un réac en plateau. Peut-être qu'il y en a un qui va se révéler être réactionnaire, je ne sais pas. Voilà, c'est la pique d'entrée d'émission. Il y a de multiples sujets à aborder dans cette émission. J'ai fait un peu de publicité mensongère en entrée parce que j'ai annoncé des sujets dont on ne va pas tous parler. Entre autres, je voulais, alors on en a beaucoup parlé à cette antenne, mais tout le monde n'écoute pas tout le temps en radioprésence. Et dans le cadre de Vivante Église, comment ne pas en parler ? Je voulais qu'on commence par parler de la Catalogne. Alors, pour ceux qui n'allumeraient jamais la radio et qui vivraient un petit peu coupés du monde, je vais juste rappeler un ou deux éléments d'actualité. Il y a eu donc un référendum pour l'indépendance en Catalogne. C'était le 1er octobre dernier. La question était la suivante. Voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république ? Et la réponse a été oui à plus de 90%. Alors après, quand on regarde les détails, c'est 90% pour, mais rapporté à la population de la Catalogne, ça ne fait jamais que 2,3 millions de oui sur une population de plus de 7 millions d'habitants. Derrière, s'en est suivi une multitude d'événements. Peut-être, je citerai juste les derniers qui sont tombés hier. Donc, Carlos Puigdemont, comment vous dites, Daniel Cabanis ?
Carles. Carles, pas Carlos.
Carles Puigdemont, oui, pardon.
Parce que ça fait partie du conflit, ça.
Qui est à Bruxelles, donc depuis maintenant quelques jours. Il y a un mandat d'arrêt européen à la demande de la justice espagnole contre lui. Voilà, il y a du coup une vague de grève en Catalogne parce que la population, enfin une partie de la population, se lève comme un seul homme contre ces procédures judiciaires. Et la Cour constitutionnelle espagnole a donc hier déclaré définitivement que cette déclaration d'indépendance était nulle et non avenue. Alors, peut-être un début de parole, Bernard Ribal, sur ce sujet. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ?
Ben, moi, j'ai mon épouse qui est catalane, mais catalane française. Et je note déjà, d'ailleurs, très rapidement que les Catalans français ne bougent pas trop. Enfin, il y a quelques prises de parole, mais on ne peut pas dire que la Catalogne du Nord suit la Catalogne du Sud. Hein. C'est pas du tout le cas. Non, moi, ce qui me gêne, c'est ces mouvements de repli sur soi un peu partout dans le monde et particulièrement en Europe. Et puis peut-être des choses qui ne sont pas assez dites, c'est que la Catalogne représente 16% de la population espagnole et 20% du PIB. La différence n'est pas énorme quand même entre 16 et 20%. Or, les Catalans sont persuadés qu'ils sont très riches et que les autres sont très pauvres. Or, la différence, oui, elle y est, mais elle est loin d'avoir l'énormité dont on parle, surtout si on tient compte qu'en cas d'indépendance, la Catalogne aurait une dette d'État énorme.
Quoi. Une dette colossale.
Une dette 35% de son PIB.
Oui. Alors, il y a des choses qui sont peut-être pas souvent dites de cette façon-là.
Enfin, on dit souvent qu'elle représente 20% du PIB espagnol, mais on ne dit pas qu'elle représente 18% de sa population. Oui,
mais c'est pas si dit. Le décalage n'est pas si... Et je note en dernier que, et ça c'est positif, que pour l'instant, on ne tend pas vers la guerre civile vraiment, quoi. Il n'y a pas eu encore d'événements qui puissent nous faire penser qu'on est en état de guerre civile. Et c'est important pour l'Espagne, hein, parce qu'il replace, hélas, le débat. À 1936, hein, la Catalogne se donne pour identité la République avec une arrière-pensée très à gauche. Et Madrid est accusé d'être néo-franquiste, quoi. Tout ça est plus mythologique que réel. Mais ça fait partie du conflit. Bon, justement, l'Espagne n'est pas en guerre civile.
Daniel Cabanis, comment on peut expliquer qu'il y a... Donc, autour du 1er octobre, on avait l'impression justement que l'Espagne était au bord peut-être pas d'une guerre civile, mais en tout cas d'événements graves. Il y a eu des manifestations violentes, la répression policière, etc. Et là, on a l'impression que ça se délite. Je lisais ça hier dans La Croix... qu'on est à un mois et demi donc, d'élections législatives en Catalogne, que le front indépendantiste déjà s'éparpille.
Alors, effectivement...
Pour les béotiens que nous sommes, comment expliquer cette différence entre...
Moi, je suis aussi largement un béotien, c'est une affaire qui est très compliquée. Simplement, s'il y a une envie de prendre du champ par rapport à Madrid, envie qui est d'autant plus marquée dans la jeunesse qu'on l'a instruite, quand on regarde les manuels d'histoire, c'est absolument patent, dans l'idée que la Catalogne est la partie écrasée par les Castillans, qu'ils sont des victimes, qu'ils sont exploités. Donc, il y a assez sincèrement, chez une partie de la jeunesse, l'idée que c'est le moment ou jamais de rattraper un passé qu'on nous a volé.
Et ce, depuis longtemps, je veux dire
Ça n'est pas très, très ancien. C'est la génération, c'est votre génération, c'est les 30-40 hein, qui sont concernés par ça. Avant, ça n'était pas le cas. Donc, c'est un phénomène qui est relativement nouveau, qui s'est accru avec un repli linguistique, puisque aujourd'hui, si une famille souhaite que ses enfants soient éduqués en castillan, elle n'a que le choix de l'école privée, puisque l'école publique est nécessairement en catalan. Donc forcément, ça crée des réflexes, des positions identitaires. Mais ceci étant dit et passé, beaucoup de Catalans, y compris des gens qui sont séparatistes ou favorables à plus d'autonomie, ne veulent pas en payer un prix trop cher. Or, comme nous l'a répété tout à l'heure notre premier intervenant, économiquement, ils ne sont pas tellement, tellement plus forts que les autres. Donc, à ce moment-là, ça ne leur donne pas une position si solide. D'autre part, un certain nombre de très grandes entreprises, en particulier bancaires catalanes, ont déjà délocalisé ou sont en train de délocaliser leur siège pour le cas où l'indépendance se produirait, ce qui signifierait un affaiblissement supplémentaire. Et enfin, ils se rendent aussi bien compte que dans la mesure où l'Europe n'a pas applaudi des deux mains, qu'il n'y a pas du tout de soutien à ce niveau-là, la situation serait extrêmement compliquée. Parce que quelle monnaie, la peseta ou autre chose, quelle relation, il faudrait reconstruire quelque chose. Quand on voit les difficultés du Brexit, qui peut-être finalement n'aura pas tellement lieu, ou comme un pétard mouillé, on peut imaginer facilement ce que donnerait une sortie avec une volonté de rentrer. Parce que les Catalans sont catalans particularistes en Espagne, mais à côté de ça, ils sont très européens, d'autant qu'ils en ont largement bénéficié.
Alain Cerisola, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Comme cela a été dit, c'est un problème extrêmement compliqué. Bon, il y a l'aspect purement économique qui est mis en avant et dont a parlé Bernard Ribal, mais il y a aussi un aspect historique et culturel qui pousse peut-être les Catalans vers, alors peut-être pas vers l'indépendance, enfin je suis pas spécialiste, mais vers une plus grande autonomie. Alors cette autonomie, ils en avaient acquis un petit peu plus, et le Conseil constitutionnel espagnol leur a retiré, et peut-être que la solution, elle est là. C'est une négociation pour leur donner un petit peu cette autonomie. Je suis pas certain, pardon, comme cela a été dit, que la majorité des Catalans soient pour une indépendance, parce que économiquement cela poserait des problèmes. Alors voilà la question, c'est que il y a le droit à l'autodétermination qui peut être invoqué, mais actuellement dans une situation qui est un petit peu une impasse, qui est un petit peu une impasse où il y a le refus de discussion de fond. Il y a ces élections qui sont annoncées pour le 21 décembre. Je ne sais pas où ça va aller. Et comme vous l'avez dit en préambule, je ne sais pas si les indépendantistes, les autonomistes vont vraiment y participer. Cela, je ne sais pas où on va. Mais il y a quand même, et ça a été aussi évoqué, par rapport à l'Europe, c'est quand même un vrai danger. Un vrai danger. On évoquera peut-être tout à l'heure d'autres pays.
Alors justement, mais... je préfère qu'on en parle maintenant parce que je voulais faire écho aussi à ce que je disais en introduction. Suite aux élections en Autriche, la victoire donc du, non pas du FPO, vous allez m'aider, Daniel Cabanis, mais du chef de file des conservateurs Sébastien Kurz, mais qui s'est largement, dit-on, inspiré des idées politiques de ce parti dit d'extrême droite, donc du FPO. Il y a quand même l'Europe tremble un petit peu, fait peut-être plus que trembler, parce que quand on se met une carte des élections, comme je l'ai sous les yeux. Là, c'était Le Figaro au lendemain, le 31 octobre, au lendemain de cette élection. Front National, France, 13,2. Allemagne, 12,6. Autriche, 26, etc., etc. Est-ce que ça fait, on va dire, deux réalités qui sont certes très différentes entre les velléités d'indépendance ou d'autonomie, mais l'Europe n'a pas... Comment dire, l'Europe tremble d'une certaine manière, non, Daniel Cabanis?
Oui, mais... On peut comprendre cette inquiétude, notamment lorsque certains partis ont des relents réels, plus ou moins profonds, qui les rattachent à tout ce qu'on exerce, tout ce qu'on déteste, qui est le racisme, l'antisémitisme, le refus des droits et de la liberté. Il serait totalement malhonnête d'assimiler les indépendantistes catalans à ce type de mouvement. Cela n'a rien à voir.
Je parlais plutôt de l'inquiétude de l'Europe.
Oui.
Dans les deux cas, elle est inquiète.
Elle est inquiète dans les deux cas, mais pas du tout pour les mêmes raisons. Parce que la montée de partis qu'on qualifie de populistes, prenons le mot puisqu'il est courant, suscite une crainte de repli général de l'Europe, notamment par rapport à son action dans le monde, par rapport à l'accueil des migrants, la peur d'une forteresse européenne repliée sur soi qui finirait par s'étioler parce qu'elle n'aurait plus d'échange, elle n'aurait plus d'apport, d'autant qu'on sait très bien, à l'aune de Bruxelles, que dans plusieurs des pays européens, la France est moins concernée pour le moment, même presque pas du tout, mais il y a une nécessité d'ouverture, et c'est une clause de survie, parce que la population vieillit et qu'il n'y a pas de renouvellement des générations. Madame Merkel l'avait très bien compris, elle a eu un acte d'ouverture courageux, dont on doit lui savoir gré si on est favorable à ce genre de décision. Mais en même temps, c'était aussi de la réelle politique. Elle avait besoin de nouveaux jeunes qu'on qualifierait, qu'on formerait, qui viendraient garnir les postes de travail pour lesquels il n'y a plus suffisamment d'Allemands, y compris dans les positions qualifiées. Ce n'est pas du tout la même émigration qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec l'arrivée des Turcs en Allemagne, des Italiens, des Espagnols en Suisse. C'est tout à fait différent.
Bernard Ribal, sur ce sujet de l'Europe qui tremble, évidemment, c'est deux réalités très différentes, comme le disait Daniel Cabanis, mais néanmoins, elles sont presque concomitantes. Donc,
Et elles sont souvent de la mythologie là-dedans, parce que la France a accueilli, je parle sous le contrôle de Mme Cabanis, mais en gros 5% de migrants par rapport à l'Allemagne. Quoi, hein.
Oui, c'est dérisoire.
C'est dérisoire. Et on en fait...
On avait promis d'accueillir, je crois, plus de 20 000 à l'occasion des accords qui avaient eu lieu. C'était 130 000 pour l'Europe. Ouais. La France en a accueilli 20 000. Je ne sais même pas si on a atteint le quota des 20 000.
Non, ouais.
Alors qu'en Allemagne, on est à plus d'un million.
Donc. Oui, voilà. Oui. Alors donc, en pourcentage, ça ne fait pas beaucoup. En Catalogne, l'extrême droite n'y est pour rien. Hein. Et puis même dans le conflit, l'extrême droite serait plutôt, mais là aussi c'est mythique, hein, serait plutôt du côté de Madrid, d'après les accusations catalanes. Mais en Italie, en revanche, c'est bien l'extrême droite quand même. Hein.
Oui.
En Italie, dans les référendums autorisés, là, hein, c'est très différent. Référendums tout à fait autorisés. Dans ces référendums autorisés, c'est la Ligue du Nord, généralement qualifiée d'extrême droite, qui a mené la course. Et avec peu de succès d'ailleurs. Hein.
Ah, attendez, juste comme tout le monde ne suit pas l'actualité comme vous, juste je replace, donc je redonne le contexte. Donc c'était le 22 octobre dernier. Donc cette fois c'était la Vénétie et Lombardie et la Lombardie qui se sont prononcées, donc non pas pour l'indépendance, mais pour plus d'autonomie. Réponse oui à 98,1%. Si la participation était de 57,2%. Et semble-t-il, ils demandent en fait un statut dont bénéficieraient d'autres régions déjà d'Italie, comme le Val d'Aoste, la Sardaigne, la Sicile, etc. Juste la Lombardie, la Vénétie, c'est pareil. En tout cas, parfois, on a fait quelques parallèles. C'est un quart, dit-on, du PIB italien pour, comment dire, et un taux de chômage de 6% de la population active. Et la question précise était, voulez-vous plus d'autonomie pour votre région? Voilà, juste comme ça, j'ai sans dit.
Et là, je n'ai pas tout à fait les mêmes chiffres, mais peu importe. Hein.
Allez-y, vous pouvez préciser. Hein,
non, moi, j'ai lu 30% du PIB. 30% du PIB. Mais 25% de la population, les deux régions, Vénétie, Lombardie. Là aussi, l'écart est... Il existe, il est signifiant. Mais quand même, hein, il n'y a pas de quoi dire...
C'est pas spectaculaire.
Oui, c'est pas spectaculaire. La différence, c'est pas spectaculaire. Et là, c'est l'extrême droite qui a mené la danse. Mais je disais, juste avant votre intervention pertinente, parce qu'il faut être au courant de cette histoire, la Lombardie n'a voté qu'à 52% de participation. Et la Vénétie à 39%. Mmh. De participation. C'est-à-dire que ça n'intéresse pas tellement les Italiens, pourtant appelés au référendum.
Alors ça ne les intéresse pas, mais ça les engage, semble-t-il, puisque j'ai cru comprendre que derrière, il y avait eu un certain nombre de déclarations demandant cette fois, non pas l'autonomie qui était demandée, mais un statut spécial. Et là, Rome a commencé à sortir les griffes d'une certaine manière, non ? Daniel Cavis, qu'est-ce que vous direz ?
Oui, alors évidemment, Rome n'est pas très content parce que si les deux régions obtiennent la plus grande, pas totale, mais plus grande autonomie fiscale qu'elles réclament, ça signifie non seulement l'organisation du prélèvement de manière autonome, mais la redistribution, l'engagement des dépenses de manière plus autonome. Un des très grands arguments de ces deux régions, c'est de dire que Rome est une ville du sud, autrement dit qu'elle a Rome, la capitale, Rome, le gouvernement central, a les mêmes défauts que les régions du sud, c'est-à-dire la corruption, que ce soit la Grandetta à Naples ou au contraire la mafia, ou parallèlement plutôt la mafia en Sicile. Et que par conséquent, c'est une accusation indirecte qui est très forte, qui est portée. Et pour le gouvernement, ça pourrait être une menace, parce que si les régions du Nord, mieux gérées, creusent encore l'écart, notamment en matière de chômage, parce que là, les chiffres sont spectaculaires, autant en matière de proportion de population ou de PIB, bon, il y a un écart, mais qui n'est pas monstrueux, mais en matière de chômage, oui, parce qu'en Sicile, c'est plus de 15%, dans la région napolitaine, c'est plus de 15%, donc là, il y a une différence qui est significative.
Quand j'ai passé le bac... Pour soutenir ce que vous dites, quand je passais le bac il y a fort longtemps, on me disait déjà cette différence entre l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Enfin, c'est vraiment pas nouveau.
Mais ce qui veut dire que si même ça n'a pas fait même autant de bruit, on voit qu'il y a la même question dans le fond qui peut surgir un jour. En tout cas, c'est...
Oui, mais il n'est pas certain qu'il y ait un vrai rêve de revenir à l'Italie fragmentée du 19e siècle, avant Garibaldi, Cavour et consorts, mais simplement la possibilité de gérer de manière autonome quand on pense, à voir si c'est vrai, quand on pense que l'on est capable de gérer mieux. Parce qu'un des arguments sur lesquels la Ligue marque des points, c'est le fait d'être plus efficace et moins corrompu.
Alain Cérisolin.
Oui, à travers toutes ces revendications qui sont certes différentes d'un pays à l'autre, toutes ces réflexions identitaires, moi je me pose beaucoup la question, quelle Europe voulons-nous, quoi ? Alors c'est ce danger d'émiettement, les Anglais qui s'en vont, les Écossais qui sont plus ou moins à vouloir se séparer de la Grande-Bretagne, les Catalans, les Italiens, quelle Europe voulons-nous ? Et je crois que tout le monde est persuadé qu'il faut une Europe forte, alors peut-être que la solution elle est dans une régionalisation plus forte, plus que dans un fédéralisme d'État, mais permettre à toutes ces régions d'exprimer leur identité vers vers une certaine autonomie. Mais ça nécessite, bien sûr, une discussion. Ça nécessite que chacun ne se replie pas sur soi-même, comme c'est le cas actuellement en Espagne, avec le gouvernement espagnol qui est un peu intransigeant.
Juste pour finir, avant qu'on fasse une première pause, à vous entendre, en fait, on peut se dire aussi que, comment dire, cette injonction qui est celle d'Alain Cerisola, et puis vous avez, comment dire, qui ne fait écho qu'à vos interventions, attention au morcellement, voilà, l'Europe est quand même née, on va dire, plus que dans le sang, mine de rien, voilà, le régionalisme grandit, il y a ces velléités indépendantistes, les partis dits populistes se multiplient. Qu'est-ce que vous entendez en fait derrière ça? Parce que on peut s'en désoler, mais et en même temps ça n'évolue pas dans.
Il faut éviter la balkanisation de l'Europe. Je suis pas tellement pour l'Europe des régions, moi. Et surtout que je suis français, c'est-à-dire que.
Mais la question, c'était davantage qu'est-ce que vous entendez derrière ça? C'est juste la peur du déclassement et la peur du.
La peur du déclassement, elle a bien d'autres causes, hélas, quoi. La peur du déclassement, c'est plus que la peur, le déclassement a lieu, quoi. Hein. Le déclassement social. Je ne parle pas du déclassement des pays par rapport les uns aux autres, hein. Je parle du déclassement social. Mais je crois que les Français ont une qualité qui était jusqu'ici un défaut, hein. C'est qu'ils sont jacobins. Moi, j'aurais tendance à être girondin, mais les Français sont culturellement fortement jacobins. D'accord. Et il n'y a pas en France, par rapport à l'Allemagne, par rapport à l'Italie, par rapport à la Grande-Bretagne, par rapport à l'Espagne, il n'y a pas en France cette revendication indépendantiste régionale. Elle a eu lieu du temps de Frédéric Mistral, un peu autour de 68, parce qu'il était à la mode de tout revendiquer. Mais en France, aujourd'hui, il n'y a aucune région qui demande ni plus d'autonomie, demanderait même moins d'autonomie. La tendance en France aujourd'hui, c'est moins d'autonomie régionale et intervention de l'État.
Daniel Cavalier, je repose ma question. Ma question, c'était qu'est-ce que vous entendez derrière ces deux réalités, certes différentes, parce qu'on ne peut en effet. Certains Français reprochent aux médias de donner la parole à des gens qui se désolent constamment de ce risque de morcellement, mais laissant entendre que l'establishment et toutes les personnes autorisées en fait s'en désolent, mais n'entendent pas ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Il me semble qu'il faut intégrer dans ces réactions le fait que l'Europe est un peu mal jugée. Elle est perçue et analyser sur ses échecs et pas sur ses réussites. Parce que ces échecs, c'est vrai qu'on n'a pas réussi l'Europe sociale, les inégalités sociales ont plutôt eu tendance à se creuser et à peu près partout. Une politique commune n'est pas véritablement menée dans la majorité des domaines. Donc c'est un gros machin, pour paraphraser sur un autre sujet le général de Gaulle, mais qui n'est peut-être pas aussi opérationnel qu'il devrait. Néanmoins, ce que je crois qu'on doit garder en mémoire, c'est que l'Europe a malgré tout permis que depuis 60 ans, il n'y a pas l'ombre d'un quart de demi-guerre dans les pays qui sont concernés par la construction européenne. C'est déjà un progrès. On n'a jamais eu depuis très longtemps une période aussi longue sans affrontement. Et globalement, je sais bien que c'est à prendre avec des pincettes, mais globalement, les conditions de vie de la majorité des Européens, même si elles sont inégalitaires, même s'il y a encore beaucoup à faire, se sont améliorées. Donc, et ça, c'est en partie grâce à l'Europe. Nos paysans français, par exemple, qui n'arrêtent pas de hurler contre l'Union européenne, c'est sans doute les paysans européens qui ont le plus bénéficié de l'aide européenne. Nous, si elle n'était pas intervenue, nous serions complètement arriérés.
Mais alors là, heureusement qu'il n'y en a pas en plateau, parce que je ne sais pas ce qu'ils vous répondraient, mais
j'ai
souvenir de quelques émissions où ils expliquaient que la situation était quand même un peu plus compliquée que ça, entre autres. Non, qu'ils étaient une des premières victimes, en l'occurrence, du dumping social, par exemple. J'ai souvenir d'éleveurs du Gers
c'est autre chose. Peu importe, c'est pas le sujet. Mais c'est juste. Mais on leur a quand même donné des opportunités de développer leurs exploitations selon des modalités plus modernes qu'ils n'auraient sans doute pas conquises tout seuls. Alors après, la façon de gérer ce qui n'est plus la politique agricole, mais la politique commerciale, ce qui est autre chose, peut poser des problèmes, notamment au niveau de la distribution.
Juste sur ma question, hein, je reviens toujours à ma question.
Oui, mais très, très, très schématiquement pour répondre à votre question.
Qu'est-ce que vous entendez derrière?
Mais j'y vois un repli, la montée d'un certain égoïsme où chacun voit midi à sa porte et ne veut plus considérer les autres. Et c'est ça qui est tout à fait dangereux si on ne veut pas mutualiser les moyens. Alors, vous avez cité la Lombardie, la Vénétie. J'ai lu que tant qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre extérieur à ces deux provinces, ils étaient moins autonomes. Maintenant qu'ils sentent qu'ils n'en ont plus besoin, ils revendiquent une plus grande autonomie. Donc cela dénote un égoïsme. Chacun veut vivre pour soi et c'est tout à fait dangereux, surtout dans la perspective d'une Europe forte et unie.
On va faire une première pause et on vous retrouve tout de suite après. On va rester un peu sur un sujet européen, entre autres, on va parler des travailleurs détachés. Donc cette émission Vivante Église, en ce vendredi, le grand débat de Vivante Église avec autour du plateau, pour rappel, Danielle Cabanis, chroniqueuse géopolitique à Radio Présence, entre autres Alain Cérizola, diacre délégué diocésain à la solidarité pour le diocèse de Toulouse, et Bernard Ribal, entre autres président des semaines sociales de Toulouse. Je voulais rester sur un sujet un peu européen, c'est la question des travailleurs détachés. On peut se dire « grande victoire politique » d'Emmanuel Macron au début de son mandat, au moment où il met la France peut-être pas à la diète autant que l'aurait fait François Fillon, mais en tout cas où il conduit un certain nombre de réformes qui ne sont pas du goût de tout le monde, les ministres, les différents États européens, les 28, se sont mis d'accord pour, en fait, d'une certaine manière, presque revoir complètement cette réalité. Alors, je redonne juste les deux, trois éléments clés. Les travailleurs détachés, c'était la possibilité, donc, pour un certain temps, pour des travailleurs de pays, divers pays européens, d'aller travailler dans un autre pays que le leur, et ce, au coût de du pays d'origine. Mmh. Voilà, seulement ça ne devait avoir qu'un temps, et la situation se prolongeait parfois par trop. Juste en France, il y en avait 38 000 en 2006, et semble-t-il 286 000 en 2015. Emmanuel Macron a obtenu, enfin je pense qu'il ne l'a pas obtenu tout seul, hein, je vous laisserai commenter, que la durée soit comment dire, limitée à 12 mois avec une possibilité d'une rallonge de 6 mois et que les salaires soient alignés sur ceux du pays d'accueil.
Qui reçoit.
Voilà, qui reçoit. Et puis qu'il y ait plus de contrôle. Alors, est-ce que vous diriez que c'est de fait une grande victoire politique ? Ça, c'est quand même... J'ai souvenir d'une émission où on avait fait état du suicide des artisans en France, qui se retrouvent à concurrence plus que déloyale avec des... évidemment dans le bâtiment, mais pas que, et qui, d'une certaine manière, hein, pardon de présenter les choses comme ça, à cause des plombiers polonais, parfois finissent par mettre la clé sous la porte. Daniel Cabanis, qu'est-ce que vous diriez ?
Alors, c'est une victoire de principe qui va en soi dans le bon sens et qui devrait créer des conditions de concurrence plus équitable. Néanmoins, il y a une grosse limite. Si les salaires, la rémunération des salariés étrangers doit être alignée sur celle du pays qui les accueille, les charges sociales restent celles du pays d'origine. Ce qui signifie que, comme beaucoup de pays ont des charges très inférieures au nôtre, le coût d'un salarié étranger, même rémunéré au même niveau qu'un Français pour ce qui est de la partie salaire, sera moins lourde pour l'employeur, donc pour celui qui le fait venir. Donc c'est bien, mais ça ne résout pas tout. Et puis il y a surtout une autre question. Je ne prétends pas qu'à Bercy ou à la présidence de l'État, on n'y ait pas pensé. Mais très souvent, il n'y a pas un contrat avec des salariés, mais des contrats d'entreprise. Par exemple, vous avez pas mal d'entreprises du bâtiment catalane, puisqu'on en parlait, qui viennent construire complètement une maison ou un chalet. Celui qui commande paye le tout. Et le salarié n'est pas du tout rémunéré par lui. C'est l'entreprise d'origine qui gère à peu près comme elle veut ses salaires. Et là,
qu'est-ce que vous entendez par là, du coup ?
Ben, je veux dire, il se peut fort bien que les salariés qui sont détachés, en l'occurrence en France, ne soient pas du tout payés au tarif horaire des ouvriers français, mais restent soumis à un salaire espagnol. Et puis, catalan, pardon, quelle horreur. Ce qui, pour ça, revient à peu près au même. Ce qui signifie que les risques de concurrence déloyale ne sont pas totalement écartés, même au niveau salarial.
Vous voulez dire que ces entreprises, à partir du moment où leurs employés ne travaillent sur un sol qui n'est pas celui de l'entreprise d'origine, en fait, ne seraient pas concernées par l'accord qui a été passé ?
Il se pourrait avoir. Comment ça se négocie ? Mais il peut y avoir des conventions collectives dans certains pays qui fassent échapper les entreprises à l'obligation de payer au même tarif qu'en France. Si on embauche un ouvrier espagnol, si vous, pour refaire votre cuisine, vous faites venir un ouvrier, mettons de Gérone, là, vous devrez le payer au salaire français, mais les charges au salaire espagnol. Mais si c'est une entreprise complète qui vous livre une maison clé en main,
Bernard Ribal,
pas sûr.
Dites-nous, apportez-nous des précisions, ça paraît quand même énorme, ce que
oui,
vous dire Daniel Cabanis.
Moi, je crois que le mérite d'Emmanuel Macron... et d'avoir mis avec force le sujet sur le tapis, et d'avoir plus ou moins amené la Pologne à une position plus modérée qu'avant. Mais en fait, rien n'a changé. Hein. Mais alors, rien. Quoi, hein. D'abord, c'est dans 4 ans, au mieux.
2022.
Au mieux, c'est dans 4 ans. Et en plus, il ne se passe rien. Je veux dire par là que, jusqu'à présent, les rémunérations devaient être en France, à la française, pour les travailleurs qui venaient de l'étranger. Alors, il y avait des fraudes, mais le SMIC était obligatoire. Il n'était pas interdit de donner plus que le SMIC, mais le SMIC était obligatoire. En ce moment-là, en 2017, il n'y a que les cotisations sociales. Et c'est important, hein. Il n'y a que les cotisations sociales qui étaient du pays d'origine.
Attendez, je m'y perds, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'accord que j'ai cité tout à l'heure, en fait, ce qui aurait changé, c'est que les cotisations doivent être alignées maintenant ?
Non. Les cotisations ne seront pas...
Donc à vous entendre, cet accord, en fait, il n'y avait pas de changement, c'est ça ?
Il n'y a pas de changement. Le seul changement significatif...
Décidément, il faut lire la presse avec plus de précision. Alors
le seul changement
significatif... Vous pouvez être un peu surpris, mais...
Si.
Le seul changement significatif, dans cette histoire, c'est la lutte contre la fraude. C'est-à-dire créer, par exemple, des entreprises bidons, des entreprises boîte aux lettres. Là, il y en a beaucoup qui le font en France, hein, qui créent des entreprises, mettons en Pologne, qui n'existent pas, des entreprises écrans, qui servent à amener des travailleurs détachés en France. Et puis, il faut faire attention au fait que c'est un marqueur européen fort. Ce que veulent aujourd'hui les Français et l'ensemble des Européens, c'est une Europe qui protège. Or là, c'est un marqueur d'Europe qui ne protège pas. Même si c'est que symbolique, hein, parce que, comme vous l'avez dit, et cette fois-ci on a le même chiffre, il y a bien 286 000 travailleurs détachés en France, mais il ne faut pas oublier de dire qu'on a 183 000 travailleurs français détachés à l'étranger. Ce qui fait un ratio beaucoup moins fort que...
Oui, ça j'allais dire.
Ouais, donc, il y a plus de symbolique que de réalité, mais quand même, c'est un marqueur européen très fort. Mais encore une fois, il y a rien de changé si ce n'est une lutte déterminée contre la fraude.
Bah, comme quoi, il faut lire la presse avec précision. Par exemple, je lis juste le passage dans Le Parisien que j'avais trouvé. « À travail égal, rémunération égale. Autre changement majeur qui devrait brutalement réduire l'intérêt de solliciter des travailleurs détachés. L'alignement de la rémunération entre locaux et étrangers. Avec la version de 1996 de la directive, les entreprises n'étaient tenues de respecter que le taux de salaire minimum en vigueur dans le pays d'accueil. » Alain Cerisola.
Bon, on va pas savoir
qui a raison ou tort, mais...
Quand on dit rien de changé...
Je suis pas sûr que j'ai dit l'inverse. Hein.
Non, mais quand vous dites rien de changé, si, il y a quand même des choses de changer. Alors, il y a des imperfections. D'abord, c'est en 2022 seulement. Il y a le problème des charges sociales qui restent à charge du pays d'origine.
Ça ne change pas.
Au point de vue travail, l'accord, c'est quand même à travail égal, salaire égal. Donc, c'est quand même un signal fort donné aux entreprises fraudeuses.
C'était déjà le cas. Voilà, c'est la fraude. La fraude,
d'accord. Oui, c'est ça.
Voilà. C'est quand même un signal fort pour ces entreprises qui sous-payaient le personnel.
Ils auront l'obligation maintenant de, pour un travail égal, ans, de payer de la même façon. Donc c'est tout à fait important et ça va dans le sens d'une construction européenne plus forte. Alors c'est sûr qu'il y a encore des ajustements à faire et notamment cette question des charges sociales qui est tout à fait importante et qui va encore créer des distorsions. Mais tout ça, ça va dans le bon sens. Alors est-ce que c'est une grande victoire? Je ne sais pas si on peut dire grande victoire, mais ça va dans le bon sens et je m'en réjouis.
Mais vous voulez dire qu'il y a un peu d'effet de com dans cette affaire? Parce que peut-être si on suit l'actualité d'un peu trop loin, on a l'impression que c'est une victoire politique, mais en fait, à vous entendre, il n'y a pas grand-chose qui...
Je crois qu'Emmanuel Macron était très sincère. Je ne pense pas qu'il y ait un coup de com uniquement comme ça. Il s'est battu pour essayer de résoudre ce problème des travailleurs détachés, mais il n'a pas pu aller plus loin que ce qu'on a dit à l'instant. Quoi.
Enfin, il a quand même obtenu cette fois-ci que les Polonais ne disent plus « non, on s'en fiche, on fera ce qu'on voudra ». Donc ça, c'est quand même un progrès, parce que
oui,
là, qui est quand même très important. C'est vrai pour les Roumains aussi. Et ça va concerner toute une série de travailleurs saisonniers, notamment les travailleurs agricoles, qui venaient, que ce soit pour les vendanges, la récolte de telle ou telle production, et qui très souvent venaient des parties les plus faibles de l'Europe centrale et orientale était terriblement exploitée.
Il y a quand même une lacune dans cet accord, c'est le cas du transport routier.
Pour l'instant,
il est exclu de l'accord. Ouais. Or, les transporteurs routiers emploient beaucoup de travailleurs étrangers.
Pour l'instant,
ils n'ont pas pu se mettre d'accord, donc on reste au statu quo, ce qui est une lacune dans cet accord.
Ouais.
Pour les transporteurs routiers, peut-être quelqu'un peut expliquer un peu plus précisément, en fait, c'est... Daniel Cabanis.
Alors, disons que dans plusieurs pays, dont la France, le statut des travailleurs routiers, même s'il reste pénible et souvent difficile, est quand même relativement protégé en termes de temps de travail, d'heures de repos obligatoires, etc. En plus de la rémunération. Et puis, ils ont un certain nombre de primes qui ne sont pas normalement pas soumise à impôt. Or, bien évidemment, ça peut créer un certain nombre de distorsions. Ça coûte cher. Un étranger auquel on n'a pas besoin de verser les primes parce qu'elles sont liées au syndicat français peut s'avérer très, très intéressant. Alors, la faille, il faut la trouver sur les normes de sécurité. Parce que pour l'instant, on chipote sur ce qu'est le salaire, ce que sont les primes. Sur le salaire, on ne peut pas faire autrement. Sur les primes, on pourrait... Du moins, c'est l'argument des employeurs. On pourrait faire autrement. En revanche, là où il y a encore des faiblesses, c'est sur la sécurité.
Allez, on avance. Je propose qu'on parle maintenant euthanasie. Dans le mois qui a passé, il y a une affaire qui a secoué un peu l'opinion publique en France. C'est donc l'histoire de cet écrivain, Anne Berthe, qui a publié un livre, je vais retrouver, le tout dernier été aux éditions Fayard, dans la femme atteinte de la maladie de Charcot, et qui a expliqué qu'en fait elle voulait mettre fin à sa vie, donc elle voulait être euthanasiée. Comme l'euthanasie n'est pas légalisée en France, elle est allée en Belgique, et son livre, sa requête, et l'acte qui a été posé, on va dire, sur elle, a été largement médiatisé. Alors, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. J'ai été surpris, même dans La Croix, en fait, il y avait un article qui présentait Anne Berthe comme si, d'une certaine manière, enfin, faisant vraiment état de sa détresse et de la question qu'elle posait. Est-ce que ça vous a surpris, déjà, pour commencer, agacé et après, je vous relancerai. J'ai encore quelques questions sur ce sujet. Alain Cérisola.
La question de l'euthanasie est une question effectivement difficile. La position de l'Église est connue, elle est ferme, elle est contre pour le respect total de la vie. Quand on entend l'histoire de cet écrivain, vous avez dit cet écrivain, donc c'est le débat sur l'écriture inclusive, là, entre parenthèses.
Point E.
On en parlera une autre fois.
Non, quand on voit la détresse de cette personne, on a tendance à dire, j'ai presque envie de dire, on comprend sa position. On comprend sa position. Alors,
Il paraît que le Premier ministre aurait changé d'avis après avoir été mis au courant de ce cas ou l'avoir rencontré. Je ne sais pas s'il l'a rencontré, mais...
Mais il faut rester fermement attaché au respect de la vie. Mais moi, je me pose quand même un certain nombre de questions. Quand on voit que la loi Léonotikles autorise la sédation... La sédation
profonde et continue.
Ce n'est pas l'euthanasie, mais endormir quelqu'un pour plus qu'il souffre, c'est très bien. Jusqu'à le laisser mourir, on n'est quand même pas loin de l'euthanasie. Donc il est important qu'on ait un vrai débat, que la Commission nationale d'éthique qui se penche sur la question et un vrai débat sur la question. Alors il faut rester fermement attaché au respect de la vie, de l'embryon jusqu'à la mort. Ça c'est la mort naturelle, c'est tout à fait certain. Mais le cas de Anne Berthe pose effectivement des questions, mais ce que je regrette un petit peu, c'est que c'est à l'occasion d'événements comme celui-là, donc cette personne qui va en Suisse, en Belgique pour se faire euthanasier, c'est à cette occasion-là qu'on parle du sujet. Or, c'est un sujet qui devrait être d'actualité, ne pas attendre des événements comme celui-là pour mettre ça sur la table.
Alors, vous permettez, je vais vous relancer de manière un peu incisive, parce que, comme je disais, comme il y a peut-être moins de réacs que d'habitude autour du plateau, je vais me faire un tout petit peu leur porte-parole sur ce sujet. Déjà, quand on dit euthanasie, est-ce que c'est pas complètement piégé? C'est-à-dire que cette femme n'a pas été euthanasiée, elle a été suicidée.
Elle a eu une assistance au suicide.
Des médecins l'ont suicidée.
Non, elle n'a pas été suicidée.
C'est pas elle qui s'est injectée la...
Elle a demandé une assistance, mais on ne peut pas dire qu'elle a été suicidée.
Non.
C'est pas elle qui s'est donné la mort.
Mais j'entends...
Stricto sensu.
Si tu te prends à l'espagnolette, c'est l'espagnolette qui, en tirant sur la corde, t'a donné l'âme. Il faut pas jouer sur les mots.
Entre une poutre et un homme, il y a quand même une légère différence.
Oui.
Non, mais Anne Berthe, on peut considérer, peu importe qu'elle se soit suicidée ou qu'elle ait demandé le suicide, mais il y a deux problèmes qui se posent. Un qui est terriblement difficile et qui est pragmatique, et un qui est tout aussi difficile et qui est théorique. Le pragmatique difficile, c'est comment faire la différence, dans le cas limite, entre l'euthanasie et l'acharnement thérapeutique. Parce que l'Église est contre l'acharnement thérapeutique.
Oui, mais c'est ça. Oui.
Et elle est contre l'euthanasie. Et je suis du même avis que l'Église. Exactement du même avis, sans bémol, sans rien.
Ce qui est globalement la position de la loi Claes Néonetti aussi.
Voilà. Le problème, c'est d'arriver à trouver les critères et qui fait que, jusque-là, c'est de l'acharnement thérapeutique. Et oui, mais attention, si j'arrête les appareils...
Où est la frontière?
Ça, c'est le point de vue technique. Et puis, il y a le point de vue théorique. On se trompe énormément sur le mot dignité. La dignité dont parle Anne Berthe, ou dont parlait Henri de Monterland quand il s'est suicidé, c'est la dignité fierté, la dignité amour-propre. La dignité qui dit « je ne suis plus digne ». Si je ne sais plus penser, si je ne sais plus écrire, si j'ai perdu des facultés, j'ai perdu ma dignité. Or, la dignité n'est pas relative à des qualités et à des défauts. Elle est absolue. un trisomique a la même dignité qu'un chercheur. La dignité ne se mesure pas aux capacités, aux performances. Et de ce point de vue, l'opinion publique ne sait plus trop où elle en est, parce qu'elle entend toujours le mot dignité, mais employé dans des sens extrêmement différents. Dignité sacrée ou bien dignité fierté. C'est quand même deux choses complètement différentes. Et là, on a effectivement le... Alors,
moi, je ferai écho juste à l'occasion donc, de la publication de son livre et donc de tout ce qu'il y a eu autour. Il y a aussi des malades, des gens malades de la maladie de Charcot qui sont, j'ai souvenir d'une une du magazine Pèlerin, d'un homme qui disait « j'ai la maladie de Charcot et j'arrive à trouver d'une certaine manière... » une certaine dignité, enfin j'ai envie, et puis j'ai envie de me battre alors que je suis atteint de la maladie de Charcot. Enfin,
ce qui pouvait, mais finalement, vous n'êtes pas aussi que vous le disiez tout à l'heure. C'est pas, vous ne pouvez pas faire l'adversaire dans cette discussion.
Je ne suis pas censé vous répondre, mais en tout cas, je suis censé apporter les aiguillons nécessaires.
Mais écoutez, moi j'ai rien à dire, je suis complètement de votre avis, j'ai lu aussi ce...
Je ne suis pas d'un avis particulier, mais voilà, on est dans une radio particulière. Daniel Cabanis.
Bon, moi j'ai lu le livre qui est quand même très... très émouvant, même si je partage tout à fait la position de M. Ibal sur la définition de la dignité, parce qu'effectivement, c'est tout à fait... Il y a deux choses, il y a deux notions qui sont tout à fait différentes. Et effectivement, le problème, c'est la limite. Et j'ai tendance à penser qu'il y a une limite à ce que le législateur doit faire. Parce qu'après tout... la loi va déjà assez loin. On sait déjà beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de faire. Après, au-delà, c'est très, très, très difficile de trancher. Parce qu'après tout, c'est quand on est concerné. Moi, j'ai un souvenir qui remonte à il y a très, très, très longtemps. Mon père était médecin et un de ses amis avait son propre père dans un état épouvantable. Et il lui avait dit, écoute, il faut que tu nous aides. Il n'en peut plus. Il a toujours dit qu'il ne voulait pas. Enfin, bref. Et mon père les connaissait tous et savait que c'était vrai. Donc, il n'y avait pas de doute en la matière. Et il lui a dit, bon, ben, écoute, d'accord, on va le faire, mais c'est toi qui vas débrancher la machine. C'est pas moi. C'est toi qui vas le faire.
Parce que c'est toi le malade, c'est ça?
Non.
C'est le parent.
C'est toi qui vas le faire. Parce que je ne veux pas assumer la responsabilité. Je serai à côté de toi. Et si problème il y a, je le vivrai avec toi et à côté de toi. Mais c'est toi qui vas le faire. Et il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Mais le même médecin, mon père, qui a souffert l'horreur à la fin de sa vie, nous avait dit, il y a un stade au-delà duquel vous demanderez au médecin qui le suivait, qu'il fasse en sorte que ça ne dure pas.
Donc c'est la sédation profonde et continue. Ouais. Dans ces cas-là, c'est...
Oui, je crois que ça peut suffire d'ailleurs.
Excusez-moi, juste, je voudrais vous relancer sur à propos de, comment dire, de la Belgique, puisque donc elle est là-bas, parce que là-bas, l'euthanasie est légalisée. Mais ça n'est pas parfois sans poser de questions, puisque maintenant, il y aurait des gens qui seraient atteints de maladies, non pas, on va dire, physiologiques, en tout cas de maladies psychiatriques, qui demanderaient, entre autres, il y a une femme, comme ça, ça fait un peu de bruit aussi, c'était, il y a un peu plus longtemps de ça, une certaine Laura, j'ai retrouvé ça, qui était une fille qui, suite à une enfance difficile, souffrait de dépression régulière et qui a demandé à être euthanasiée. Il y a, semble-t-il, donc maintenant... des euthanasies pour, on va dire, des cas psychiatriques ou des situations parfois passagères. Peut-être qu'elles sont plus ou moins passagères ou plus ou moins graves. Ça n'est pas sans poser de questions quand même, Alain Cerisola, non c'est... Voire même, on parle de ces réalités pour des mineurs. C'est...
Ça a été dit, le problème est complexe, c'est toute une question de frontières. Quelles maladies peuvent être concernées ou comme a dit M. Ibal, la différence entre le non-acharnement thérapeutique et l'euthanasie, où est exactement la frontière? Tout ça, c'est extrêmement compliqué.
Mais là, la question est quand même plus précise. C'est des gens qui ont des maladies psychiatriques. Oui. On peut imaginer qu'un adolescent dans ces cas-là qui fait une dépression grave va finir par demander l'euthanasie. Vous voyez, c'est quand même... C'est quand même pas sans poser de questions.
Ça pose des questions, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est assez facile, même si c'est difficile, assez facile d'avoir des positions théoriques, mais la personne qui est concernée, la personne qui est face à son problème, comme Anne-Berthe, etc., je crois qu'on n'a pas le droit de juger. Bon, personne ici ne juge, mais que c'est assez... Moi, je suis un peu effrayé d'entendre des prises de position caricaturales, c'est pas bien, c'est bien, etc. Hein, je crois qu'on ne peut pas se mettre à la place des personnes et que c'est cette question d'euthanasie, et Daniel Cabanis l'a très bien dit, il faut y réfléchir, mais je ne sais pas s'il y a vraiment eu une réponse ferme et définitive sur la question.
Pour finir, il nous reste hélas pas beaucoup de temps, je voulais qu'on y reste un peu plus longtemps. J'aimerais qu'on parle rapidement donc, du handicap. Emmanuel Macron, ils avaient une libre intervention lors du débat du second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il avait fait du handicap un peu sa dernière cartouche. Il avait promis un certain nombre de choses, de porter l'allocation adulte handicapé au-delà de 900 euros. Il voulait plus de personnes en situation de handicap sans solution. Je faciliterai la scolarisation des enfants handicapés, ou par exemple, nous améliorons l'accès à l'emploi des personnes handicapées. Et la secrétaire d'État aux personnes handicapées a fait un certain nombre de déclarations dans le journal La Croix, que vous avez lu, je crois, Daniel Cabanis, on finira peut-être par ça. Emmanuel Macron essaye de mettre le paquet de ce côté-là. Qu'est-ce que vous diriez? C'est un peu court, parce qu'il y aurait quelques contradictions à apporter, mais c'est pas grave.
Oui, oui, bon, très, très, très rapidement, il y a la dimension économique sur laquelle il va tenir ce qu'il a dit en deux étapes. Donc, ça ne peut être que perçu favorablement par les personnes handicapées et leurs familles, parce que souvent la dimension financière complique ce qui est déjà très, très compliqué. Le fait de vouloir améliorer la scolarisation est une bonne chose, mais il y a peut-être un écart entre les intentions et le fait qu'on va supprimer un certain nombre d'emplois aidés.
Alors, semble-t-il, voilà. Ces contrats aidés seraient sanctuarisés.
Ils seraient sanctuarisés et puis il est...
Voire même, on va essayer d'améliorer le statut des AVS.
Tout à fait. Normalement, c'est fait. Normalement, c'est fait. La législation est passée, oui. Mais il n'y a pas encore tous les décrets d'application. Donc, apparemment, ce serait fait. Mais là, il y a encore un problème à régler. Ça ne veut pas dire qu'il y ait malhonnêteté, mais tout n'est pas réglé. Et puis, l'autre aspect qui me paraît intéressant, c'est de lancer le plan autisme, parce que c'est un des points sur lequel la France est le plus en retard par rapport aux autres pays européens, parce qu'on est resté pendant très très longtemps sous la dictature, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, des psychanalystes, qui considéraient que l'autisme, c'était la faute des mamans, et que par conséquent, il n'y avait pas grand-chose à faire, sinon des traitements inhumains, genre les bains d'eau glacée et autres, qui évidemment ne débouchaient sur rien. Alors, on en est un peu sorti, mais le fait d'enfin prendre en compte la réalité de ce problème dans son immensité quantitative, parce que maintenant on sait mieux qualifier, je crois, est objectivement un progrès. Après, il faudra voir à quel rythme les choses se feront, les moyens qui seront mis en œuvre, ce qui est compliqué.
Voilà, c'était le mot de la fin. Merci beaucoup d'être venu ce matin au micro de Vivante Église et de Radio Présence par la même occasion pour cette émission Le Grand Débat. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi.